avec Patrice Gélinet. Bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, un tournant dans l'histoire de l'aviation. 1947, le passage du mur du son.
Mesdames, Messieurs, la route que nous suivons aujourd'hui nous amènera jusqu'à la ligne ville du Havre. Ensuite, nous accélérerons pour franchir le mur du son et poursuivre notre montée jusqu'à 18 000 mètres.
D'histoire. Les passagers du Concorde, on vient de l'entendre, sont encore aujourd'hui les seuls à avoir un jour franchi sur un avion civil la redoutable barrière du mur du son. Cet obstacle que doit traverser un avion quand il rejoint et dépasse les ondes sonores que provoque son propre déplacement. Mais pour atteindre cette vitesse qui dépasse les 1000 km/h, il fallait d'autres appareils que les avions à hélice. Et c'est sur des avions à réaction qu'il y a un demi-siècle, quelques pilotes d'essai ont tenté d'atteindre des vitesses supersoniques en prenant des risques insensés. Le 3 avril 1954, un des plus célèbres d'entre eux, Constantin Rozanov, trouvait la mort à bord du même avion qui, un an plus tôt, lui avait déjà permis de franchir le mur du son.
Aptitude 10 000, je me rapproche du terrain. Je vais basculer pour partir en possibilité. Je bascule.
Je bascule.
Attention, comme la terre. Allez. Appliquez la verticale. Je redresse. Altitude 4 000 et je remonte sur la lancée. 180 indiqués, ce qui doit correspondre à quelque chose comme 180 par rapport au sol.
Et voici les deux coups du passage du mur du son par Rozanov.
Daniel Costel, bonjour.
Bonjour.
Alors, c'était le célèbre bang que fait un avion quand il franchit le mur du son, le mur du son auquel vous avez consacré le dernier épisode de votre histoire de l'aviation qui vient d'être réédité en DVD chez TF1 Vidéo. Pour tous les pilotes d'essai des années 50, comme Rozanov, que l'on vient d'entendre, qui s'est tué un an après cette archive étonnante que l'on vient d'entendre.
C'est pour ça que c'est si émouvant de l'entendre.
Ouais. Le mur du son, pour eux, c'était vraiment un peu l'équivalent du Cap Horn pour les marins. C'était à la fois mythique et dangereux.
Ouais, c'était surtout une énigme pour les ingénieurs. Et ce qui était terrible, c'est que on ne comprenait pas ce qui se passait. Et là, il y a retard dans la technique, dans les études, qui en fait est payé par les pilotes d'essai. Mmh. Vous savez que la base d'Edwards, autour de la base d'Edwards, il y a les habitations des
pilotes. La base américaine
pilotes,
en Californie.
Oui, qui est la base d'essai, la grande base d'essai des américaines. Il y a des petites maisons, si vous voulez, dans lesquelles vivent les pilotes. Et ces petites maisons sont groupées dans des... Il y a des rues. Et toutes les rues portent les noms des pilotes qui sont morts. Mmh. Et il y en a beaucoup parce qu'à l'époque, en fait, on ne connaissait pas d'autres systèmes que les essais et les erreurs. Il y avait bien entendu des essais soufflerie, il y avait des études qui étaient très poussées, encore qu'on n'avait pas du tout les ordinateurs d'aujourd'hui, et que tout ça se faisait à la règle à calcul, vous savez. Alors il y avait un phénomène qui était incompréhensible et redouté, qui était l'arrivée dans les zones dites de compressibilité, qui étaient les zones où on arrivait aux alentours du mur du son, c'est-à-dire de la vitesse du son. 1225 km/h, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans un moment où autour de l'avion se crée une onde de choc, où on ressent des vibrations extrêmement sévères et parfois à un certain moment une inversion des commandes qui peut être mortelle.
Et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'accidents avant qu'il soit franchi ce mur du son. Il pourrait d'ailleurs pas être franchi par les avions à hélice, vous le rappelez au début de ce documentaire, parce qu'il dépassait jamais les 800 km/h, même plus rapide.
Si justement, il y a eu quand même, pendant la guerre, un certain nombre de pilotes qui ont passer dans piqué le mur du son sans le vouloir. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. La plupart d'ailleurs sont morts. D'ailleurs, ils ont peut-être eu le temps de dire qu'ils avaient des vibrations extrêmement graves. Parfois, l'avion se désintégrait. C'est arrivé sur Spitfire et sur P-47 Thunderbolt.
Alors, il y avait quand même, bon, il y a eu l'essor, les progrès réalisés dans ce mode de propulsion qui est la réaction. Ça apparaît dès le début de la guerre, même un tout petit peu avant la guerre, des recherches étaient entreprises. Les Anglais s'y sont mis avec le Gloster Meteor, les Allemands avec un avion d'ailleurs qui a combattu à l'extrême fin de la guerre, le Messerschmitt 262, qui est le premier avion à réaction à avoir vraiment été utilisé en temps de guerre. Les Américains étaient finalement en retard à la fin de la guerre, sauf que c'est eux qui vont passer le mur du son. Les premiers avec un avion qui s'appelle le Bell X-1, qui ressemblait plus à une fusée d'ailleurs qu'à un avion, Daniel Castel.
Il ne ressemblait pas tellement à une fusée, il ressemblait à ce qui devait ressembler, c'est-à-dire que les ingénieurs de Bell avaient copié la balle du Colt 45.
Ah oui ?
Parce que il était constaté qu'elle sortait du canon. Le 1145, le 1143, le pistolet qui était le pistolet standard de l'armée américaine, n'est-ce pas ? Et on avait constaté qu'elle sortait à vitesse supersonique. Donc par conséquent, qu'elle pouvait être la forme idéale pour fabriquer un avion. Alors le Bell X-1 ressemble à cette balle. Oui.
Et alors il avait des ailes très courtes et surtout il était incapable de décoller tout seul, si bien qu'il était transporté à une certaine altitude avant d'être largué pour partir tout seul à la conquête du mur du son. C'était, je crois, des bombardiers B-29 qui les transportaient, c'est ça ?
Oui, ce qu'il faut dire surtout, c'est que il fallait un courage inimaginable pour monter dans un truc pareil. Mmh. Le Bell X-1 que j'ai vu à Edwards est grand comme la table autour de laquelle nous parlons, qui est une...
Mais qui est pas grande, hein, je peux le dire pour les auditeurs qui nous entendent, mais qui nous voient pas.
C'est une sorte de toute petite machine, en somme, des fusées avec un habitacle, si vous voulez, et puis effectivement une espèce de moignon d'ailes autour, quoi. Fallait vraiment être très 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 gonflé pour monter là-dedans.
Et
ce qui était le cas de Chuck Yeager.
Oui, parce que justement le 14 octobre donc 1947 sur un B-29 d'école de la base Edwards qui est en Californie avec à son bord ce pilote de 24 ans qui était Chuck Yeager. Et à 10h20 exactement, il descendait dans le cockpit du X-1 qui était sous le bombardier et le X-1 qui était largué à 6000 mètres d'altitude. On écoute un extrait de votre documentaire commenté par vous, Daniel Costel, le moment où ce 14 octobre 1947, le X-1 de Chuck Yeager se détachait du B-29 pour tenter d'atteindre et de dépasser pour la première fois dans l'histoire le mur du son.
C'est parti. L'avion dispose de 2 minutes et demie de carburant. Il faut avoir des réflexes rapides. Chuck Yeager allume ses 4 fusées. Une poussée de près de 3 tonnes amène le Bell X-1 à 8000 mètres en une minute. Alors là, du sol, on ne voit plus que la mince traînée de condensation. Soudain, on entend un bruit inconnu. Pour la première fois, on vient d'entendre la détonation du passage du mur du son. Chuck Yeager est devenu le premier homme à avoir passé le mur du son.
Quand j'ai vu l'aiguille du Machmètre sauter et que j'ai su que j'avais passé l'onde de choc, j'ai eu un sentiment de plénitude. C'est ça. Après toute cette série d'essais qui avaient été très durs, ce n'est pas que j'avais peur, mais je m'inquiétais un peu quand même pour l'avion. Je pouvais perdre le contrôle. C'est ce qu'on avait envisagé, que je pouvais passer sur le dos ou piquer brutalement. Dès que je suis sorti de la vitesse supersonique, j'ai eu un grand sentiment de soulagement, vraiment.
Et c'était Chuck Yeager dans votre documentaire, Daniel Costel, commentant donc son passage du mur du son. Un personnage tout à fait étonnant, je crois, puisque vous l'avez rencontré.
Encore beaucoup plus qu'on ne croit. Vous savez qu'après, il a continué sa carrière militaire et qu'il est devenu le patron de l'aviation pakistanaise.
Ah bon ?
À un moment. Oui, le Pakistan était très aidé par les Américains, l'Inde était aidée par les Russes, et quand il y a eu les conflits entre l'Inde et le Pakistan, Chuck Yeager a servi de conseiller technique.
Faut rappeler qu'il était, pendant la guerre pilote de chasse et qu'il a bien connu la France puisque
oui, il a été abattu. Il a eu 12 victoires aériennes. Il a été abattu. Il a été recueilli par une filière d'évasion. Il a réussi à regagner son escadron où il a recommencé à se battre d'ailleurs. Enfin, c'est un personnage tout à fait extraordinaire. Il a gardé de ce moment-là, le 14 octobre 47, ce passage du mur du son qui a été universellement célébré comme un grand moment d'histoire, tout court, histoire d'aviation en tout cas. Il a gardé une extraordinaire gloire, enfin, mais en même temps un peu naïve. On l'a vu dans une autre circonstance. Il a été appelé en Corée pendant la guerre de Corée pour essayer le MiG-15 qui avait été livré par un déserteur nord-coréen.
MiG-15 était un avion de chasse
russe qui était utilisé par les Nord-Coréens. Et alors le Nord-Coréen, vous imaginez ce que ça pourrait être un pilote nord-coréen qui sort de son avion, il voit arriver devant lui les Américains qui courent sur le tarmac, et Chuck Yeager lui dit « Bonjour, je suis l'homme qui est passé le mur du son
». Mais c'était une gloire, à tel point d'ailleurs qu'il est le personnage, un des personnages principaux d'un film très célèbre qui s'appelle « L'étoffe des héros », et il est le seul de cette base d'Edwards, où il y avait tous les pilotes d'essai qui deviendront plus tard des cosmonautes, avoir refusé de faire partie de la première équipe des gens qui partiront sur la Lune et dans l'espace, parce que pour lui, le fait d'être dans une fusée un peu comme un paquet n'a rien à voir avec le fait de piloter un avion.
Vous savez, ce qu'on peut surtout dire de Chuck Yeager, c'est que quand on voit sa biographie, c'est très très extraordinaire qu'il soit en vie. Mmh. Il a passé d'ailleurs pour la première fois Mach 2 aussi, vous savez. Ouais. Et en plus, il a eu un accident épouvantable avec un avion qu'il a essayé de pousser à ses limites dans un record d'altitude. Enfin, tout ça, c'est des gens qui avaient... Vous savez, le fond du problème, c'est qu'à l'époque, on ne savait pas... c'était le système des essais et des erreurs. Donc les types qui montaient là-dedans, c'était des kamikazes.
Alors les essais vont se poursuivre pendant des années, un peu occultés par la conquête de l'espace justement. Alors, il fait qu'on se détourne un peu de ce qui se passe dans l'atmosphère. Alors il y aura après le X-1, il y en aura d'autres. Et alors il y a un descendant du X-1, le X-15, qui en 1900... Ah oui, parce qu'en 67 justement, il allait atteindre une vitesse phénoménale, encore jamais égalée aujourd'hui par un avion piloté, plus de Mach 6, 6 fois la vitesse du son, plus de 7300
Ce document est enregistré à 10 000 mètres d'altitude. Le X-15, accroché à une aile du B-52 qui l'a monté jusqu'à cette altitude, va être largué pour tenter son record de vitesse.
Et c'était un reportage à bord du X-15 qui en 67 donc atteignait 7300 km/h. On n'a jamais été plus vite depuis dans un avion piloté, puisque le dernier record qui a été battu par un X-43 il y a quelques mois, c'était en novembre 2004, c'était un avion sans pilote. Hein. Alors, record de vitesse, record d'altitude aussi, vous le dites, Daniel Cossel, 108 000 mètres, plus de 100 km d'altitude.
Oui, mais attention, c'est là où on commence à avoir le mur de la chaleur. Vous savez, c'est une situation que rencontrent les avions, enfin, ou tous les projectiles de l'espace, enfin, à commencer par la navette spatiale. Tout le monde sait que la réentrée dans l'atmosphère était terrible parce que ça échauffait terriblement la paroi. Et alors, vous avez un avion qui s'appelle le SR-71, le Blackbird, si vous voulez, qui, lui, volait à Mach 3 ou Mach 4. D'ailleurs, on ne sait pas très bien encore, je veux dire, à quelle vitesse il volait. C'était un grand secret. Mais comme il rencontrait des phénomènes de chaleur, les tôles n'étaient pas jointes. De sorte que cet avion, au sol, suintait et pissait littéralement le kérosène. Et puis ensuite... La chaleur dilatait les parois.
Il se soudait en quelque sorte. Ça, c'est extraordinaire. Alors, le Blackbird dont vous parlez est un avion qui employait une méthode française. Alors, on n'a pas parlé des Français, encore les Américains n'ont pas été les seuls à s'intéresser à des modes de propulsion nouveaux, la réaction, mais quelque chose qui est encore plus extraordinaire, c'est justement le statoréacteur qu'on trouvait à bord du Blackbird, et qui a été en fait une invention française, qui est même apparue, qui est dans l'imaginaire nomination d'un homme qui s'appelait René Leduc, qui a construit un avion qui s'appelle le Leduc, justement, qui n'a jamais eu de succès, alors que c'est un procédé révolutionnaire. On le voit dans votre film, on voit l'intérieur de la tuyère, il n'y a pas de moteur, elle est vide.
Oui, on ne peut pas dire qu'il n'a pas eu de succès, puisque c'est un avion expérimental. C'est-à-dire qu'il a servi, il a énormément servi, et il a en particulier servi au Blackbird, puisque même aujourd'hui, d'ailleurs, tous les projets très avancés d'avions hypersoniques, vous savez, on rêve de faire Paris-New York en 45 minutes, ça existe d'ailleurs sur les planches à dessin, si je veux dire, sur les ordinateurs plutôt. Eh bien, Leduc, il avait inventé un système tout à fait étrange dans sa simplicité, qui consiste en réalité une espèce de tuyau de poêle dans lequel on injecte du pétrole. Alors, il faut, à une certaine vitesse, il y a un courant d'air à l'intérieur de ce tuyau de poêle, on injecte du pétrole dedans, on l'allume, et effectivement, ça peut faire une poussée considérable. Si on y ajoute un turboréacteur pour pouvoir décoller, si vous voulez, c'est ce qu'il a d'ailleurs
fait. Il ne pouvait pas décoller tout seul, il fallait qu'il ait la vitesse.
C'est ce qu'il a, donc il fallait ajouter. C'est ce qu'il a fait, le Duc. Le Duc a été arrêté, si vous voulez, parce que il a été rattrapé.
En 50, il a arrêté son procédé, enfin son travail.
Oui.
Il n'a pas été prisonnier.
Mais il a été. Oui, c'est ça. Non, mais son développement, si vous voulez, a été arrêté parce que, en fait, il a été rattrapé par d'autres avions qui, d'une manière plus économique, pouvaient atteindre des vitesses très important.
Alors les Français s'y sont intéressés aussi, ils ont passé eux-mêmes le mur du son, le premier Français, je crois que c'était en 1952, et puis il y a aussi des femmes dans votre documentaire, et une femme très célèbre qui est Jacqueline Auriol, la première en France, la deuxième au monde à avoir passé le mur du son en 1953, c'était Jacqueline Auriol, Daniel Costel.
Moi j'ai bien connu Jacqueline Auriol, j'ai eu pour elle beaucoup de respect et d'admiration. C'était c'était un pilote, un vrai pilote. C'était une femme qui avait un professionnalisme et une volonté inimaginable. Elle avait eu un accident terrible. Elle a eu, je crois, une vingtaine d'opérations pour lui refaire un visage, en réalité, parce qu'elle avait été très, 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 très blessée. C'est un avion, d'ailleurs, qu'elle pilotait pas elle-même. C'était elle était passagère dans une démonstration, dans un meeting. Et après, elle est remontée dans un avion. On lui a confié des prototypes d'assaut, surtout. Marcel Dassault lui a confié des prototypes de plus en plus évolués, de plus en plus importants. On sentait bien que c'était
Mirage 3, etc.
C'était un pilote exceptionnel, probablement l'un des plus grands pilotes de son temps.
À tel point d'ailleurs que c'est elle à laquelle on avait demandé de baptiser le premier avion de ligne à réaction du monde, livré par l'Angleterre à une compagnie aérienne française en 1953.
Au Bourget, de nombreuses personnalités françaises et britanniques ont assisté au baptême par sa marraine, Madame Jacqueline Auriol, du premier comète que l'Union aéro-maritime des transports vient de mettre en service. Il s'agit du premier appareil de ce type destiné à un vol commercial pour le compte de l'aviation française. Ses éblouissantes performances font espérer qu'il sera bientôt suivi de beaucoup d'autres.
Alors le comète, vous le rappelez aussi, Daniel Costel, c'était le premier avion à réaction de transport du monde. C'était un avion anglais, hein. Il a été livré à une compagnie française, c'est un avion anglais. Et alors il a connu des mésaventures terribles.
Parce qu'il est le produit, si vous voulez, d'une espèce de course effrénée entre les Anglais, les Américains et les Russes, et les Français aussi d'ailleurs. C'était le premier qui réussirait à fabriquer un avion de ligne qui raflerait la mise, si vous voulez. On savait que l'avion à hélice était condamné et qu'on allait vers des vitesses de plus en plus grandes avec le turboréacteur. Le problème, c'est que justement, les Anglais ont été trop vite et que ils n'avaient pas encore les moyens d'aller au bout de ce qu'il fallait, c'est-à-dire des structures extrêmement résistantes. Et le comète a connu,
quatre accidents.
Terrifiants.
En plus, coup sur coup, c'est pratiquement 50.
Tout à fait. Oui. Et pour les mêmes raisons, d'ailleurs. À partir du moment où il y avait un défaut structurel dans l'avion, il n'y a pas de raison que les avions n'explosent pas tous en même temps, d'ailleurs, si c'est passé. Ça a été une catastrophe sans nom.
Et alors, il disparaît, il est retiré du service en 54 après ces accidents.
Mais très vite, le 707 apparaît.
Oui, alors, justement,
Le 707 et la Caravelle, qui sont tout à fait contemporains. Et Alors, moi, j'ai vécu une expérience tout à fait merveilleuse, qui est le vol à bord du premier 707 d'Air France, et ça a été un moment tout à fait incroyable.
On est à la fin des années 50, là.
Oui, c'est ça. Et la Caravelle aussi était un moment tout à fait formidable.
Oui, parce qu'un procédé en plus révolutionnaire, puisque ces deux tuyères étaient à l'arrière de l'appareil, et ça a été recopié partout. C'était un grand succès français. Alors c'était un moyen ou un court courrier, la Caravelle, oui.
Oui, ça a été un grand succès. Bon, il y a eu plus de 200 appareils qui ont été construits, ce qui pour l'époque était déjà quelque chose. Mais ça n'a pas été le succès que ça aurait pu être. C'est-à-dire que on voit bien la différence entre le succès de Caravelle et le succès d'Airbus. Vous voyez, les Français n'ont pas réussi à aller au-delà d'un premier succès et de le transformer en succès durable. Et le DC-9 et d'autres avions de ce type qui utilisaient aussi des réacteurs à l'arrière, qui en fait copiaient la géniale intuition de Pierre Sartre et des ingénieurs de ce qui était à l'époque Sud-Aviation, n'ont pas réussi à déboucher sur un vaste programme industriel. Mmh. Il fallait attendre une mobilisation industrielle européenne qui a donné l'Airbus. Mmh. Là, vraiment, où on a pu vraiment concurrencer et, vous voyez, battre les Américains.
Parce que, justement, au fond, ce que vous dites, c'est que on invente, mais on n'exploite pas assez. Ça a été le cas.
Alors, de l'époque, à l'époque.
Oui, parce que tous les avions que l'on vient de citer, que ce soit Caravelle, on aurait pu citer aussi le Tupolev 114, qui était à un moment donné le seul sur le marché, qui était le seul sur le marché des transporteurs aériens à réaction. Ils sont tous subsoniques, hein, jusqu'à l'apparition, justement, à la fin des années 60, des deux premiers supersoniques de transport, le Tupolev 144, et le Concorde, qui allait rester pendant 30 ans le seul avion à voler, le seul avion civil à voler à plus de deux fois la vitesse du son, une vitesse indiquée aux passagers sur un petit appareil, le Machmètre, le seul moyen d'ailleurs pour eux de savoir qu'ils avaient franchi le mur du son, car à bord, on ne s'en rend pas compte. Écoutez, c'est un moment fort que j'ai eu la chance de pouvoir enregistrer à bord de Concorde en 1994.
Mesdames, Messieurs, vous pouvez suivre l'évolution de notre vitesse sur le Machmètre.
Messieurs, nous allons maintenant réallumer la votre combustion pour passer à Mach 1. Nous atteindrons Mach 2 dans 20 minutes environ. Vous pouvez y aller.
Ah, le pilote vient d'allumer la post-combustion. Mach 1, ça y est, nous venons de passer la vitesse du son. Et on n'a rien senti à bord. Exactement comme dans un avion normal. Mach 1, ça veut dire 20 km à la minute. La distance de Paris-Versailles en moins d'une minute. Alors ce qui est étonnant, Daniel Costel, c'est que le bruit, un avion qui passe le mur du son fait du bruit à l'extérieur, mais pas du tout à l'intérieur, on sent rien, vous l'avez pris vous aussi, Concorde, c'est insensible.
Tout à fait, on est dans un climat comme ça, de rêve en fait, et on voit apparaître cette indication au Mach 2, et c'est tout à fait extraordinaire. Enfin, je regrette beaucoup que le destin ait fait que ça a été arrêté.
Oui, parce qu'on voit apparaître, non, on voit plus, hein, Concorde n'est plus en service, c'est quand même... Oui.
Je vais quand même vous raconter une petite anecdote personnelle. J'ai fait ce voyage avec André Turca, qui était le pilote d'essai du Concorde. Et nous étions, c'était sur Paris Rio de Janeiro. Et nous étions donc au premier rang. Et Turca était très mécontent et il pestait parce que nous étions en train de manger. Vous savez, il y avait un service somptueux à bord du Concorde. Alors on avait ces couverts. Alors Turca était pas content du tout. Il disait regardez, c'est tous ces couverts en argent, tout ça. Mais c'est monstrueux. Nous, on a été obligés de limer nos sièges pour gagner du poids. Et regardez ce qu'ils font maintenant.
Alors justement, maintenant, il n'y a plus de Concorde. Et il aura peut-être ou peut-être pas un successeur. S'il n'en a pas, c'est quand même aussi un moment historique. Parce que pour la première fois dans l'histoire, nous appartenons, vous et moi, et tous ceux qui ont la chance d'apprendre, de prendre Concorde ou ne pas le prendre, à une génération, au fond, qui ira plus vite que celle de ses enfants. Comme si la vitesse était complètement dépassée, comme s'il n'avait plus d'intérêt.
Oui, vous savez, c'est pas tout à fait ça. Le problème, le Concorde s'est arrêté parce que la distance Rennes à l'époque et encore aujourd'hui, pour vendre des avions, c'est bien entre New York et Los Angeles.
Oui.
Bon, on n'a toujours pas résolu le problème du bang supersonique sur lequel Concorde a échoué. Mmh. À partir du moment où les...
Il ne pouvait plus survoler les territoires.
Il ne pouvait pas survoler les territoires. Ça concernait non seulement la distance New York-Los Angeles, mais ça concernait aussi le vol jusqu'à Singapour, l'Australie, etc. Donc, par conséquent, on n'a pas encore trouvé la solution à ce bang supersonique. Mais on a fait un choix aussi, qui est le choix entre pas plus vite, mais moins cher.
Et plus gros avec la 380,
voilà,
par exemple.
C'est...
Et puis avec des avions qui se ressemblent un peu tous. Vous le dites à la fin de votre documentaire, c'est vrai qu'on a évoqué de grands noms, des constructeurs d'avions très connus, des pilotes d'essai très connus. Maintenant, on ne parle plus des pilotes d'essai, c'est plus les héros d'aujourd'hui, c'est peut-être les spationautes. Et on ne sait plus qui construit les avions, c'est les ordinateurs. Il n'y a plus de Tupolev, de D'Aviland, de ces gens qui construisaient des avions.
Écoutez, on est peut-être à l'abri aussi des intuitions géniales. On est dans un domaine de plus grande sécurité. À vrai dire, l'idée que l'Airbus 380 a été construit par l'ensemble des Européens avec des meilleures techniques, les plus grands ordinateurs qui existent, au fond, c'est très rassurant. Je veux dire.
Merci Daniel Costel. Je rappelle que vous étiez venu la semaine dernière. Il y a plusieurs auditeurs qui nous ont écrit. Je crois pouvoir dire que
voilà,
vous leur répondrez.
Justement.
Il y en a un qui voulait savoir si on allait rediffuser votre émission sur Concorde.
Voilà, il y en a un qui m'a beaucoup ému, ouais, qui me remercie d'avoir influencé sa vie et sa carrière. Et j'essaierai de lui procurer le film sur Concorde.
Alors pour en savoir plus, c'est sur l'ensemble de l'histoire de l'aviation depuis le rêve d'Icare jusqu'au Concorde. Je recommande vivement votre célèbre série documentaire, l'histoire de l'aviation, qui vient d'être rééditée en DVD chez TF1 Vidéo. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci au Chuck Yeager de la technique, Michel Thomas et Antoine Viossa, aux pilotes de chasse, Claire Destacan, Claire Tesser, Violaine Ballet, Amélie Briand et Caroline Chausset, ainsi qu'à la tour de contrôle, la réalisatrice Anne Comilac.